J'ai été imprimé là. C'est donc, quelqu'un peut me dire le numéro de la page? CAF? Non, non, en bas, là. CAF? Et voilà, je vous dirai très rapidement en ce qui concerne les différents sujets de ce programme sur la SCOVA. Nous allons donc avoir 5 séances dans les soirées. La prochaine ayant lieu demain soir. Et ensuite, à partir de dimanche, de la semaine prochaine, c'est bien ça? J'ai déjà indiqué tout à l'heure que M. Dreyfus, qui était prévu pour l'essentiel du séminaire, étant souffrant, il sera évidemment remplacé. Son cours sera remplacé. Et je vous demanderai seulement pour le cours de demain soir, et ceux qui ont Ilkhot Tshuva du Rambam, de l'amener, Ilkhot Tshuva dans le Yad Hazaka, parce qu'on vient d'être prévenu, je ne sais pas si on aura le temps d'avoir des textes suffisamment, donc, vous avez compris le problème. Et rappelez-moi qu'en fin d'études, j'ai quelques communications à vous faire, et s'il y a mignon, ce que j'espère, on fera vite après le cours. Bien, alors vous leur demandez de fermer la porte. Là. J'ai encore... Voilà, dans votre programme, on a imprimé texte de Orot HaKodesh, c'est une erreur de l'imprimeur. Il s'agit évidemment de Orot HaTshuva. Le livre de Orot HaTshuva est un petit livre qui a déjà plusieurs éditions. Et le Rav disait à ses élèves que lui-même, après l'avoir écrit, chaque année, le mois de Elul, il étudiait ce livre et il apprenait encore beaucoup plus que qu'il ne savait sur ce qu'il avait écrit. Et en général, avant lui, dans la Chita du Gaon de Vilna, d'où le Rav est issu, et on étudiait le mois d'Elul, on continue d'ailleurs, un livre du Rav Chaim de Vologine qui s'appelle le Nefesh Chaim, pendant le mois d'Elul, pour la préparation à la Tshuva. Et à partir de l'année prochaine, vous pourrez l'avoir en français, un livre qui était très difficile à traduire. Et Benogros, que vous connaissez tous, a réussi ce tour de force de traduire en français le Nefesh Chaim, ce qui est une chose colossale. Et je pense que ça doit apparaître dans les semaines qui viennent. Je reviens en Rotachuva, il y a eu plusieurs tentatives de traduction. À ma connaissance, aucune n'a abouti. C'est un texte hébreu, écrit dans un hébreu très difficile à traduire en français. Mais j'espère encore qu'il se lèvera un traducteur compétent qui pourra un jour le traduire en français. Et comme je le disais, c'est un petit livre en quantité, mais qui est assez colossal, énorme en qualité. J'ai choisi deux textes. J'espère qu'on arrivera au bout déjà ce soir. Si vous n'arrivez pas à m'entendre très bien, comme d'habitude, ça va s'arranger. Vous arrivez à m'entendre? Alors, le premier est dans le chapitre 5, et c'est le paragraphe 6. Vous avez donc dans la deuxième colonne de vos textes. Et avant cela, une toute petite introduction. Le texte que nous allons étudier se base assez lointainement, mais très directement du point de vue du contenu, sur un des enseignements de Maïmonide, du Rambam, au sujet de la Tshuva, que nous aurons certainement l'occasion de voir plus en détail demain soir, mais que je vais rappeler très brièvement. Pour le Rambam, la Tshuva doit être considérée comme un mouvement naturel de l'âme, ou de la conscience, et ne doit pas être considérée comme une obligation de la Torah. Ce qui est considéré comme une obligation de la Torah, c'est le comportement de la tshuva, la manière dont la tshuva doit être faite, doit être habilitée, authentifiée, et plus particulièrement dans le moment du rite de la Shiva, qui est le rite de l'aveu. Laissez peut-être ouvert. Laissez peut-être ouvert, ça ira. Laissez ouvert. Et nous allons étudier à ce propos un texte qui est une illustration de cela. Il y a, parmi les grands décisionnaires, une controverse qui consiste à savoir s'il faut considérer la mitzvah de la tshuva à travers ses différents niveaux. C'est d'abord le repentir dans le sens le plus simple. Il y a eu une faute ponctuelle. Se repentir de cette faute et à quelles conditions le repentir sera considéré comme authentique. Nous l'étudierons avec le Ilchot Tshuva du Rambam, déjà demain soir. Le retour à un état antérieur d'où on avait dévié au moment de la faute, de façon beaucoup plus globale déjà, un plus haut niveau, pas seulement le repentir par rapport à telle ou telle faute particulière, ponctuelle, mais ce qui a été considérablement renouvelé à ce niveau-là par l'enseignement du Rav Kook, à partir du siècle où nous vivons, jusqu'au siècle où nous vivons, la plupart des grands enseignements portés sur la tshuva ponctuelle. Telle faute a été faite, je ne sais pas comment dire ça en français, la réparation de telle faute particulière, avec toutes les implications, repentir, expiation, etc. Et de façon plus générale encore, donc ce point que je suis en train de définir, le retour d'un éloignement global de la personne tout entière. Et puis, encore beaucoup plus haut, et c'est cela essentiellement le chidouche, le renouvellement du sens de ce problème dans l'enseignement de Orot HaTshuva, du Rav Kook, le retour d'Israël comme collectivité à son identité propre. Et là, c'est vraiment un niveau de la définition et de l'enseignement qui porte sur HaTshuva qui est propre à l'enseignement du Rav Kook. Ce sont des thèmes de connaissance, de réflexion ou d'étude qui sont déjà devenu assez familier et auquel on s'est familiarisé, mais il faut se rendre compte de la mutation qu'il y a eu au moment où, avec le Rav Kook, encore une fois, on a commencé à parler de la tshuva au niveau global, tant au niveau de la personne individuelle, mais dans sa globalité, qu'au niveau du clan Israël, du peuple d'Israël, dans sa globalité. Et il y a un problème particulier, qui n'est pas seulement un problème de vocabulaire, un problème sémantique. Vous avez des chaises par là. Et concernant le sens de l'expression Baal Tshuva en général, et qu'on emploie très souvent de notre temps, qui est un terme pas du tout clair par rapport au vocabulaire traditionnel, puisque pour le vocabulaire traditionnel, Baal Tshuva, ça veut dire quelqu'un qui a fait tshuva sur un comportement particulier. Dans ce sens-là, il n'y a que des tzadikim meikara, c'est-à-dire des consciences, des personnes, qui sont des tzadikim de principe, qui vivent selon la Torah, qui pourraient être baalei tshuva, dans le premier sens, qui est le sens classique habituel jusqu'à notre temps. Et il faudrait peut-être réserver l'expression de hozrim bitshuva, et non pas baalei tshuva, pour ceux qui globalement étaient complètement éloignés de la Torah, du judaïsme, d'Israël, des rites d'Israël, et reviennent. Et le fait qu'on les nomme baalei tshuva est très ambigu. Et c'est plein de problèmes. Puisque, en fait, je ne sais pas si c'est un phénomène de société contemporaine, c'est un phénomène qui ne touche pas seulement la société juive, et israélienne en particulier. Ça s'inscrit dans un phénomène global de retour aux sources en général que l'on peut expérimenter dans différents domaines de l'histoire contemporaine. Et la plupart du temps, il s'agit d'un retour ou d'un revenir, et parfois c'est ni retour ni revenir, puisque ce sont des personnes qui n'y étaient jamais, on ne revient que là où on a été. C'est leurs ancêtres, immédiats ou lointains, qui avaient quitté l'ensemble Am Israël, Torah d'Israël et d'Israël, et ceux qui reviennent en réalité viennent de nouveau, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc tout ça est aussi très ambigu, et la plupart du temps, ils reviennent, je veux dire là, quelque chose d'un peu accusé, d'un peu had, comme on dit en hébreu, C'est à discuter, enfin à étudier. Ils ne reviennent pas à la Torah ou à Israël. Ils reviennent à la religion, ce qui est très particulier. Et est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ils sont hosrés la date, velo hosrim bitshuva, plus exactement. C'est un emploi un peu pas clair des termes traditionnels dont on a hérité, on ne sait pas comment les manier, alors on les manie sommairement. Ce qui explique un monde de problèmes au niveau de la société juive et israélienne en particulier. Bon, tout cela, vous le devinez, ce n'est pas seulement des problèmes sémantiques, ce sont des problèmes de société, d'identité extrêmement graves, mais enfin, ce n'est pas tellement notre sujet. Malgré tout, ce que je voulais signaler, c'est le renouvellement de sens du mot de tshuva que nous devons au Rav Kook et qui dépasse considérablement le sens classique. Nous, encore une fois, seuls ceux qui étaient soumis à la Torah, vivaient selon la Torah, pouvaient être baalei tshuva, dans le cas où il y avait trébuchement sur un comportement de faute X ou Y. Et ça ne désigne pas le mouvement auquel nous sommes en train d'assister dans la société juive, qui encore une fois n'est pas spécifique au peuple juif, c'est un mouvement de retour aux sources ou de recherche de sources qui est très global, très général dans l'humanité, surtout qui avait été touché par la culture occidentale, et qui est un autre phénomène. Donc ne confondons pas, si vous voulez, les sujets. Ce phénomène de retour des juifs à leur identité, et dont le maître et l'enseignant et le mahaner et l'éducateur a été le Rav Kook en son temps, et maintenant il y a énormément de, je vais vraiment dire, de choses analogues, convergentes, et parce que nous vivons à peu près 50 ans après le temps de l'enseignement du Rav Kook, il s'est passé énormément de choses, et ça c'est un sens nouveau. C'est bien clair. Et alors, je reviens donc à la source que l'on trouve chez Maïmonide et qui me semble être, nous allons le voir dans l'étude de texte, nous allons faire immédiatement, dans le, plus que dans le filigrane, à la base même du petit texte que nous allons lire, c'est le fait que Maïmonide considère que la conduite de Tshuva, dans tous les sens que j'ai indiqués, est une tendance de la nature humaine telle qu'elle a été créée et selon ses propres principes, selon sa propre doctrine, je parle de Maïmonide, ce qui est un comportement naturel et donner donc à ce sens de nature son sens le plus authentique, pas naturiste, mais vraiment naturel dans le sens profond, ne peut pas être objet de commandement, puisque s'il y a une tendance naturelle, il n'y a pas de liberté de la conscience. Ce qui peut être objet de commandement, d'obligation, de chiyoud en hébreu, c'est la forme qui authentifie. Je reprends donc pour notre exemple, selon Maïmonide, revenir à une valeur que l'on avait quittée doit être considéré comme une tendance naturelle. J'expliquerai un peu plus tout à l'heure immédiatement. Et le commandement porte sur la manière d'authentifier, que ce soit authentique. Et cela, selon Maïmonide, c'est l'aveu. La mitzvah que demande la Torah, c'est que lorsqu'il y a tshuva, que l'aveu soit authentique. Je me propose d'étudier cela, ce point-là, plus en détail demain. Mais je crois qu'il est indispensable de l'indiquer à ce sujet. La conduite de la tshuva elle-même, je prends le problème en dehors de la question est-ce que c'est une mitzvah, est-ce que c'est pas une mitzvah, a été systématisé de la manière la plus claire du point de vue des comportements rituels et à la limite presque de la l'ascèse que ces comportements rituels par rapport à la tshuva impliquent inévitablement par l'école que je vous ai signalée dans le cours précédent, qui est l'école des chassidim allemands, qu'on appelle les chassidim ashkenaz, et qui ont établi, surtout dans l'enseignement de Rabbi Yehuda Hassid, mais ça s'annonce déjà chez ses précurseurs, qui ont établi qu'il y a quatre formes de tshuva possibles. Je vais les prendre très rapidement, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais je crois que c'est important de les connaître. Il y a quatre méthodes de la tshuva, méthodes c'est pas le mot, quatre comportements de la tshuva, conduites de la tshuva. Je vous donne les noms en hébreu, d'abord, et j'expliquerai brièvement chacune d'entre elles. Il y a d'abord la tshuva avara. Avara, C'est un mot hébreu qui signifie montrer quelque chose, témoigner, exprimer quelque chose. La deuxième, c'est la tshuva chez Keneged. La troisième, chez Keneged, ça veut dire avoir un comportement contraire, opposé à celui de la faute. La troisième, ça s'appelle la tshuva mishkal, payer le prix de compensation, je n'ai pas encore dit expiation, mais de compensation de la faute qui a été faite. Et la quatrième s'appelle El Tshuva Takatou, se conduire d'après ce que le verset de l'écriture, Akatou, prévoit comme sanction de la faute. Et alors, très brièvement, pour ces quatre conduits de la Tshuva, Tshuva Ta'abara, Tshuvat Keneged, Tshuvat Amishkal et Tshuvat Akatou. Très rapidement. Tshuvat Abaha, c'est faire la preuve qu'on est capable de ne plus recommencer cette faute-là. C'est-à-dire s'exposer à la tentation à laquelle on avait succombé, de telle sorte de faire la preuve qu'on n'y succombe plus. C'est la conduite de la Tshuvat la plus difficile. Elle est périlleuse. Qui peut garantir a priori qu'on n'y succombera pas de nouveau? Ça se rattache à un enseignement du Talmud, cette mise à l'épreuve, qui est qu'une tshuva authentique est celle dont Dieu peut attester qu'on ne refera pas la faute qui avait été faite. L'expression qu'il employait, c'est « hoker klayot valem », que Dieu entend qu'il sonde le cœur et les reins, on va dire les reins et le cœur, peut déjà attester que celui qui avait fauté ne refautera plus la même faute. C'est-à-dire, d'une autre manière, en termes plus simples, une tshuva n'est authentique que quand c'est la dernière fois que l'on fait tshuva de la même faute. Vous avez compris le propos. Et j'ai l'habitude de donner un substitut d'explication, parce que comment expliquer que celui qui avait fauté, qui fait tshuva, sait lui-même que Dieu sait qu'il ne recommencera plus ça. D'une certaine manière, la récompense de la tshuva lorsqu'elle est authentique, c'est le fait qu'on ne peut plus recommencer la même faute. Il n'y a pas de tshuva en dehors de cette définition. La Gemara dit à Omer, Echeta ve'ashuv, Echeta ve'ashuv, en maspikim beyado la'asot tshuva. Celui qui dit, je vais fauter et je me repentirai, on ne l'aide pas à se repentir. Et nous apprendrons dans tout ce séminaire que la conduite morale la plus difficile, c'est le repentir. Précisément parce que c'est l'aveu qui est la conduite morale la plus difficile. Et que ce n'est que lorsqu'on est capable d'avouer authentiquement la faute que l'on avait faite, qu'il y a là le signe que le repentir est heureux. Enfin, si c'est suffisamment clair, s'il y a des psychologues parmi vous, vous savez que la psychologie contemporaine, que l'on nomme parfois la psychologie des profondeurs, a retrouvé, utilisé cette dimension. Et je reviens donc à la tshuva avara. Il est bien évident que c'est extrêmement périlleux. Qui peut garantir qu'il ne succombera pas là où il avait déjà succombé? Et le témoignage d'authenticité serait précisément là, se re-exposer à l'épreuve et la surmonter. Et on a vu déjà suffisamment que c'est effectivement le signe que la tshuva est authentique. Et il faut faire cette preuve-là. Les abia et zé. Ken? Oui, justement, c'est parce que je n'ai pas fini que tu poses la question. Viens. Alors, ça veut dire que s'il y a, succombement, qui serait responsable? C'est le rabbin qui a enseigné ça. Que la tshuva n'est authentique que lorsque on a fait cette preuve-là, comme ça, en s'exposant. C'est clair ce que je veux dire. C'est pourquoi, dans cette école même, très rapidement, il y a quatre mots qui expliquent ce problème. Tshuvat ahava enena noheget nekuda. On n'a pas l'habitude de faire tshuva. Tu as ta réponse. Donc, j'espère avoir été clair. Tout ce que j'ai expliqué était vrai lorsque nous étions capables de cela. Simplement, nos maîtres ont diagnostiqué que nous ne sommes plus capables de cela, donc on ne fait plus ça. Ça y est, c'est clair? Donc la première tshuva, n'est pas usité. Non, il est. Tout d'abord. La deuxième, c'est précisément fuir l'opposé. Fuir, tu vois, chez Kennedy, fuir tout risque d'occasion de se retrouver dans les mêmes circonstances. Alors là, vous allez me dire, je ne sais pas comment dire, c'est plus difficile, c'est plus facile, en tout cas c'est plus sûr. Et la troisième, Shuvata Mishkal, c'est s'imposer soi-même des compensations de Yissourin, d'épreuves, pour, comment dire, effacer les hanaot de la faute qu'on avait faite. Hanaot, c'est les jouissances. Il y a là toute une conception propre au chassidim allemand, dont j'ai cité l'école, de la faute et de la vertu, qui est très précise, qui n'est pas forcément celle de l'ensemble des enseignants du judaïsme. Ça veut dire qu'il n'y a de jouissance que dans la faute, et qu'il n'y a de vertu. Il n'y a pas de vertu sans souffrance. Donc c'est encore très particulier comme vision des choses, c'est clair ? C'est-à-dire que par définition, ce qui donne jouissance, c'est la faute, et que pour compenser cela, on n'est pas encore au stade d'expier cela, mais compenser cela, atteindre une guérison de la conscience qui a été atteinte par ces jouissances de la faute, il faut, dans la voie de la vertu, s'imposer des souffrances. Et là, compensatrice, des Issourim, dommage. Et là, il y a, ça c'est Shuvata Mishkal, la troisième, hein? Et là, il y a une subjectivité des écoles d'ascétisme particulière. Par exemple, les exemples qu'il donnait à cette époque-là, c'est le fait d'aller, quand il fait le plus chaud, s'asseoir tout nu sur une fourmilière, par exemple. Hein? Je vous épargne quand il fait froid. Et alors, très rapidement, le Shla, qui est un grand enseignant de la morale pratique, indépendamment de tout le reste qu'il est, dit « Et nos générations ne sont plus capables de cette forme de tchouba. » Ça vous êtes quitte, déjà. Vous voyez à quel point, avec le temps, notre identité par rapport à ces problèmes s'est diluée. C'est-à-dire que vous trouverez des livres de morale pratique à manier avec précaution. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quel siècle ils ont été donnés et si nous sommes à la hauteur de cette forme de conscience morale. J'ai souvent l'habitude de signaler cela à propos de l'étude, qui est une étude de base et importante, du Sefer Messilat Yesharim de Lusato. Le grand enseignement de la morale pour les générations contemporaines, en particulier pour la conduite de la Tshuva, c'est le Messilat Yesharim de Lusato. Je crois que André Chouraki l'a traduit en donnant pour titre le sentier de rectitude, si je me souviens. Ah, c'est pour les échecs. Et pourquoi j'ai dit André Chouraki? Ah non, André Chouraki, c'était le devoir des cœurs, de Bachia. Non, le sentier de rectitude. Très bien traduit d'ailleurs. J'aurais dit la même chose, même si c'était André Chouraki. Et bien déjà, le niveau auquel le Messilat Yesharim nous interpelle par rapport à l'authenticité des conduites morales nous dépasse infiniment. Et mettre ce manuel de morale entre les mains des juifs comme ils sont, comme disait Léon Algazi, les simples fidèles, c'est une erreur pédagogique colossale. Je vous signale en passant, ce sont des choses à manier avec la perspective exacte de contemporanéité. Et alors que nous avons trouvé ici, je vous invite à étudier ce livre pour lui-même, par vous-même, un optimisme, une espèce de joie de faire tchouva qui est très loin de cette école que je viens de vous décrire et qui cependant est en arrière-fond de tout cela. Vous comprenez l'importance de cela. Et la dernière donc, des catégories que je voulais vous citer s'appelle Tchouva Takatoum. Alors là, on est au-delà des écoles d'ascétisme qui définissent leurs propres règles d'après leur subjectivité propre de tel ou tel chita chassidite ou pas chassidite d'ailleurs, mais sur un takatouv, c'est-à-dire d'après le Shulchan Aruch de la Torah elle-même, que faut-il pour compenser les hanaot de la faute qui a été faite. Parfois c'est beaucoup plus grave que l'ascétisme subjectif, parfois c'est moins apparemment, Mais voilà comment les choses nous étaient présentées. Alors que là, nous allons avoir un texte qui va déceler une toute autre dimension du problème. C'est qu'il s'agit non pas de s'imposer une vertu supplémentaire à la vertu d'être en bonne santé de créature, mais au contraire de retrouver, et dans la joie, cette bonne santé de créature, de telle sorte de retrouver le caractère positif de la conduite de repentir, qui est extrêmement opposée à celle de remords, du remords. La conduite du remords, c'est le signe de la maladie. Et bien entendu, l'expérience du remords peut être le commencement de la guérison. Enfin, d'après ce principe très général, qu'une conscience qui n'a pas conscience d'être malade ne pourra jamais guérir. Vous connaissez ce principe. Et il ne s'agit pas donc d'aborder un niveau de vertu coercitive. Vous avez là la définition de base, au minimum, de tout ascèse de l'ordre de la tshuva, mais au contraire de se guérir, c'est-à-dire de retrouver la bonne santé mentale. Ce sont des expressions qui reviennent très souvent dans l'enseignement du Rav, de l'état de créature. Je vous signaler à un niveau sémantique que il y a encore le chef là. Donc, c'est-à-dire qu'en hébreu, bien que les deux racines ne sont pas exactement les mêmes, la même, le mot de bari, en bonne santé, et le mot de bria, briout, bria, on va prendre à ce niveau-là, briout, la santé, bria, la créature. C'est-à-dire que l'être créé dans son état de créature est en bonne santé. Et que c'est cette bonne santé-là qu'il faut retrouver. Et la joie d'être créature. Vous voyez que nous sommes apparemment aux antipodes de la première description que je vous avais faite. Et alors, ça va me permettre, sans autre transition, d'aborder le texte lui-même. J'espère que vous avez au moins un texte sur deux. J'ai encore un livre là, si ça peut être utilisé particulièrement bien, ça va. Et alors, c'est le chapitre 5, ce n'est pas la même pagination, c'est le chapitre 5, paragraphe 6. Je vous lis d'abord le texte de la kotelet, comme ça, du titre du paragraphe, qui n'est pas forcément durable lui-même. Dans le cas de Orot HaTshuva, c'est le Rav Neria qui en a préparé la première édition, et il est probable que ce soit, le Rav Neria étant un élève du Rav Kook, que ce soit lui qui a donné le titre. Enfin, nous allons le lire rapidement, pour me faire l'idée du contenu, et on commencera immédiatement la lecture de texte. C'est-à-dire, je lirai simultanément en hébreu et en français, en donnant de temps en temps des explications qui me semblent indispensables, mais surtout en essayant de répondre à vos questions. N'attendez pas la fin du texte, mais tout de suite, s'il y a quelque chose de pas clair, j'essaierai d'expliquer plus. Alors, le titre, le chapitre 5, paragraphe 6. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La dissidente? C'est Chouata Michikal, au fond. Bien, alors je commence. Yesod HaTshuva, fondement de la conduite de Tshuva, je ne retraduis plus le mot Tshuva, c'est nécessaire encore. Sauf s'il y a une nuance. Yesod HaTshuva, vous y êtes. Tu as imprimé aussi le titre du paragraphe? Ah non. Oui, c'est photocopié. Montre-moi. Oui, vous avez donc le titre. Alors, Yesod HaTshuva, le fondement de la Tshuva, tu n'as pas trouvé aussi? Non, je... Ouais, tu es tout pris. Voilà, c'est ce paragraphe. Mais je vais dire d'abord le titre. Yesod HaTshuva, Shehi Ariga et la Shlemut. C'est l'exigence de Sheifa, c'est comme Sheifa, aidez-moi à traduire d'ailleurs, c'est plus qu'aspiration, mais c'est très fort comme mot. כהיה על אפי כמים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. טוב, אספירציון אל השלמות, על הפרפקציון. רטני גנסמולה, זה את לקריא את זה נוטריטי. שהוא מקשרת, שהיא, פרמון, שהיא מקשרת, כי רלי בין המציאות הקיימת entre la réalité de l'existence telle qu'elle est, metziut akayemet, la metziut anirsefet, à l'existence telle qu'elle est désirée. Donc le titre parle pour elle-même. Vous avez une définition de la perfection qui est propre non seulement à l'enseignement du Rav ici, mais aussi à la définition de la tshuva comme mouvement naturel chez Maïmonide, et comme définition de ce que peut être la notion de perfection pour la Torah elle-même. Une très brève réponse, il s'agit de la perfectibilité. C'est cela, la perfection réelle. Et parce que le terme de perfection, que j'emploie en français dans son sens latin, avec une signification qui vient du grec, en réalité est tout à fait opposé à l'idée corollaire qu'il y a dans la tradition juive. Je pense que vous avez déjà étudié peut-être ça d'autre part. C'est ceci. Le mot de parfait, en français venant du latin, ça veut dire complètement fait. Ça veut dire achevé. Et il y a l'idée de la fin. Au fond, c'est un type de culture qui voit dans la mort la perfection de la vie. Grec-latin. Vous voyez où ça va, hein? C'est l'horreur de l'horreur pour la sensibilité hébraïque. Là, nos textes disent, cette perfection-là, c'est la mort. C'est complètement fait. Perfectum. Complètement fait. Achevé. Dans tous les sens du mot. Écoutez, je crois qu'il y a encore des places par là. Ne restez pas là-bas au fond. Rapidement, on ne veut pas le temps. Donc voilà, là il va achever. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idéal du fini. Vous voyez le monde d'implications qu'il y a dans cette indication apparemment sémantique très, très rapide. Le Maharal cite un Midrash dont je ne me souviens plus de la source, mais le Maharal le cite, ça je me souviens. Il dit, là où cette perfection, la Shlemut, s'installe, à Satan Roken. Le Satan danse. Vous comprenez l'idée? Ça veut dire, cette perfection-là, c'est le royaume du Satan. De Satan. Hein? C'est l'impureté absolue. Vous voyez qu'il y a là une conduite de sensibilité radicalement autre. Je ne veux même pas me dire opposée, ça n'a rien à voir. Hein? Là où il y a le parfait dans ce sens latin-grec, c'est l'impureté absolue. Vous voyez donc la différence de sensibilité entre judaïsme et christianisme à propos de mille problèmes à ce sujet. Ça vous explique le désordre des synagogues en particulier. Quoi, il ne faut pas exagérer. C'est un peu. C'est la différence entre la vie et la mort. Alors, cette idée de parfait n'existe pas dans la mentalité hébraïque. Je veux dire, cette idée de parfait ainsi que finie. Vous remarquerez que chaque fois qu'un comportement juif, qu'il soit, de quelque ordre que ce soit, religieux, mental, intellectuel, folklorique, tout ce que vous voudrez, devient parfait dans ce sens-là, l'assimilation commence. Ça se déjudaïse d'un coup. Et, je ne sais pas comment s'appelle cette synagogue là-bas, à la rue L'Heure Dame des Victoires, enfin vous voyez à peu près de quoi. D'un coup. Hein, je me souviens d'avoir assisté il y a très longtemps, hein, j'étais dans les mouvements de jeunesse à Paris, à une réunion du consistoire. La question qui avait été posée aux éducateurs des mouvements de jeunesse était pourquoi nos synagogues sont-elles désertes? Je ne vous dirai pas lequel des Rothschild, parce que j'ai oublié, il y en a eu tellement, qui faisait l'exposé, nous disait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer les budgets qu'on dépense pour leur donner, il parlait des jeunes, okay, leur donner, je crois qu'il a dû vous donner d'ailleurs, des beaux temples, et vraiment c'est des budgets colossaux. Okay. Et c'est vide. Alors, la seule réponse, c'est que c'était plus les synagogues. Vous avez compris la gravité du problème. Je crois me souvenir, je ne sais pas si j'ai osé le dire, ça dépendait de l'âge que j'avais cette année-là, mais en tout cas, ça reste dans ma mémoire, Au fond, les juifs ne vont pas dans les synagogues parce qu'ils se sentent plus chez eux en tant que juifs. Islam, c'est pas parce que la prière est belle ou pas belle. Parce qu'il y avait cette limite du parfait à l'occidental, je ne vais pas dire à la chrétienne, qui est le signe même, rappelez-vous la citation du Maharal, du judaïsme, comment dire, soutanique, satanique, enfin, ça revient. Je reviens donc à la question. Et l'idée de Shlemut en hébreu, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes obligés, en parlant français, de dire parfait. Mais alors, il faut nuancer considérablement. Shlemut, c'est intégrité. C'est donc, par rapport à l'effort qu'il y a à faire pour relier, vous rappelez du titre, le matsouï au ratsouï, ce qu'il y a dans la réalité telle qu'elle est, avec ce qu'il devrait y avoir dans la réalité telle qu'on en a le kisouf, nirsefet, exigé, désiré, c'est perfectibilité. C'est tout à fait autre chose qu'un comportement que la recherche du parfait. Et c'est énormément plein d'implications dans beaucoup de domaines, mais ça nous ferait partir dans des parenthèses. Alors je préférais traduire Shlemut par intégrité, et on peut être intègre dans n'importe quel niveau d'imperfection, va nous expliquer le Rav, et à la limite philosophiquement de perfectibilité, mais c'est encore une notion pas très claire, malgré tout, plutôt que de dire perfection. C'est clair jusque-là. Vous avez en hébreu ce même problème, la racine kala, kalo. Ça peut vouloir dire le comble de la perfection, ça peut vouloir dire le comble de la destruction. Ça dépend où on met le dagesh quand on dit kala. Vous avez compris quand je fais allusion en hébreu. Kilayon, kilelatiofi, c'est ma choix. Mais la même racine. Si c'est achevé, achevé comment? Ça peut être achevé dans le sens de parfait, complètement fait, ça veut dire mort, détruit, hein, figé, apparence de la vie. Et je crois que le retour aux sources, le plus échec, c'est lorsque on retourne, et c'est des conduites magiques, on veut ressusciter des cadavres, on retourne à des formes achevées du passé qui sont déjà mortes, pour tenter de les ranimer. On ne fait que ranimer des cadavres. Alors c'est de la magie. C'est pas la tour. Vous avez compris à quoi je fais pas du jeu. Alors, je crois qu'on peut aller au texte maintenant, directement. Mi balade, marcheve tachuva, sans, indépendamment, mi balade, marcheve tachuva. La pensée de la tchuva, ici, c'est dans le sens du projet de la tchuva. Projet comme ligne directrice de la conduite, du comportement d'être. Mais balade marcheveta tshuva, menuchata ou bitrona sont deux termes très importants. Le repos de l'esprit que cela donne, menuchata, la notion de menucha en hébreu ne peut pas traduire par repos. Encore une fois, dans la même analyse, nous aurions là l'ombre de l'idée de repos éternel. Oui, c'est au fond ça la perfection. Ce serait le repos éternel. Mais je vais vous donner une image. Que vous connaissez d'autre part certainement, le sommeil du Shabbat. Ça, c'est une vraie menoucha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de remords. Puisqu'on sait que c'est Shabbat et qu'on a le droit de dormir. C'est ça, menoucha. Okay, et on ne peut pas se reposer si on a un scrupule de quoi que ce soit d'autre. Est-ce que c'est clair, ça? Okay. C'est pourquoi on dit Shena Beshabbat Ta'anu, les initiales, ça fait Shabbat. Shena Beshabbat Ta'anu. Et c'est dit pour le sommeil de la journée, pas de la nuit. Pas dans la nuit, Belavaché, on dort. Alors le repos de la nuit de Shabbat n'est pas tellement repos shabbatique. D'ailleurs, bon. Mais dans la journée, oui. Vous comprenez pourquoi? Dans la journée. On peut dormir dans la journée, tranquille, on n'a pas autre chose à faire. On a déjà fait mincha, ou peut-être qu'on va la faire. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de scrupules, alors c'est vraiment bien. C'est clair jusque-là? Top. Et peut-être je voudrais. Non, je n'ouvre pas de parenthèse parce que ça va nous prendre du temps. Et maintenant, qu'est-ce que c'est bitrona? C'est la sécurité d'être. pas cette inquiétude, est-ce que je mérite d'être, est-ce que j'ai déjà mérité d'être, est-ce que c'est un niveau encore plus haut, ou plus profond, plus inquiétant, du scrupule, qu'on pourrait appeler la scrupulite. C'est-à-dire ce mal d'être qui caractérise beaucoup de justes, c'est-à-dire beaucoup de conscience morale positive. Est-ce que j'ai le droit d'être ? Est-ce que par hasard être, c'est pas un mal ? Est-ce que par hasard vivre, c'est pas un mal ? Alors là, pourquoi ? Parce que on sait jamais si on a mérité. Et je pense que c'est un danger de la conscience qui est propre précisément aux consciences fines, aux consciences à scrupules, de risquer de considérer la vie comme une faute, de vivre comme une faute, et vous voyez où ça plonge finalement, que la vie c'est un péché, et que c'est comme ça depuis l'origine. J'ai pas dit péché originel, mais enfin ça pourrait être original. Et nous plongeons dans une civilisation dont c'est le sentiment profond. Ce n'est pas pour rien que la religion officielle de la civilisation contemporaine, enfin en tout cas occidentale, est une religion qui semble désigner cela très clairement à travers ses mythes. C'est que vivre est une faute, et qu'il faut guérir ça. En réalité, le christianisme officiel ne va pas jusqu'au gnosticisme, c'est la thèse gnostique, mais ça frôle. Et vous savez à quel point le christianisme a dû lutter pendant des siècles contre la tentation du gnosticisme pur et simple. Mais c'est leur problème. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais enfin, je referme la parenthèse quand même. Cette espèce de sentiment qu'il faut être sauvé de la vie. Que le salut, ça veut dire ça. Ça veut dire être sauvé du fait de vivre, parce que c'est le fait de vivre qui entraîne le mal. Il y a aussi le danger d'une basculation dans cette névrose-là chez les juifs aussi. Parce que si on n'est pas assuré de cette bonne santé hébraïque des choses dont on parle lorsqu'on lit la Bible, on risque de la lire de cette manière-là aussi. C'est pas par hasard que ceux qui l'ont lu comme ça l'ont lu comme ça. Je continue, je reprends ces deux termes. Menuchata, ça veut dire la marcheveta bria, marcheveta tshuva, en tant que projet, que ligne de comportement mène avec elle la menucha vraiment et le bitachon vraiment. C'est le propre des problèmes qui risquent d'attaquer en inquiétude la conscience morale la plus fine de ce que vous. Et lo yuchal adam limtzom manoach. La phrase est très claire. Mais ba'ade marchevet hatshuva, lo yuchal adam limtzom manoach. Ici, le Rav nous donne une indication de phénoménologie existentielle très profonde. Ça veut dire un homme de scrupule moral ne peut pas avoir de repos d'être. Je vous cite directement le Talmud qui appelle Rachar celui qui peut rester une semaine sans rêver. Il dit c'est sûrement un Rachar. Ma piton. Dans notre civilisation, on appelle ça le sommeil du juste. Et vous voyez qu'il y a encore une sensibilité complètement opposée. Et mon maître m'a expliqué ça comme ça. Quelqu'un peut rester sans rêver, ça veut dire sans avoir des cauchemars, une semaine entière, le monde étant ce qu'il est, c'est sûrement un rachat. J'ai compris comment on bascule dans une toute autre mentalité. Est-ce que vous pouvez lire le monde pendant une semaine sans rêver ? Et là, et bien entendu, il faut rappeler tout de suite que ceux qui ont l'habitude de dormir sans rêver ne sont pas forcément des rachats. Ça veut dire, on parle en typologie généralisée, ça veut dire à la limite, celui qui peut être satisfait de l'état du monde au point de ne pas avoir de cauchemar la nuit, c'est sûrement un rachat. Nous aurons un autre cours dans ce séminaire à propos de Akedat Yitzhak, où nous aurons à comparer le rire de Yitzhak et le rire d'Ishmaël, c'est dans la paracha qu'on va lire à Rosh Hashanah. Et nous verrons que Ishmaël rit au présent, c'est pourquoi il est disqualifié, alors que Yitzhak est appelé celui qui n'aura le droit de rire qu'à la fin des temps. Yitzhak, c'est au futur. Metzachek, pour Ishmaël, c'est au présent. Et il y a là le même thème, c'est-à-dire celui qui peut être satisfait de l'état du monde au présent, jusqu'à en rire, Celui-là est évidemment Racha, va dire le Midrash sur ce verset, alors que la différence, l'autre fils d'Abraham est appelé Yitzhak, il ne rira qu'à la fin. Je ne résiste pas à ne pas vous citer ce que je vais faire, ce que on dit en français, rira bien qu'il rira le dernier. C'est dans notre problème. Mais vous avez une Gemara entière que nous étudierons à ce sujet, où il y a un commentaire très important pour notre sujet du verset des psaumes que vous connaissez, « As imales ropu », alors seulement « imales ropu », on pourra remplir sa bouche de vie. L'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est rappelé par Rabbi Yochanan, par Rish Lakish Shimon de Rabbi Yochanan, et qui dit « Assur la dame chez imales ropu par olamazi ». Il est interdit à l'homme d'emplir sa bouche de rire dans sa monde. D'après le verset qui dit, As imales ropu, alors seulement, quand le monde sera comme il devrait être, on pourra rire vraiment. D'où le nom de Yitzhak. Il ne rira que quand ce sera authentique. Enfin, vous avez compris l'idée, le monde n'est pas vous. Et c'est ce qui disqualifie Ishmael de Yitzhak. Ce qui paraît extrêmement paradoxal, voilà Sarah qui voit un enfant rire et puis Dieu, je sais par le. Dans le même verset, nous avons dit qu'il rira.